오늘 우리 영혼에 주시는 하나님의 말씀은
La parole de Dieu se trouve dans Matthieu 20, chapitre 1, jusqu'à 16. Lisons à tour de rôle.
천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내려고
Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortait dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la troisième heure en vie, d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez, vous aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui sera juste. » Ils allèrent, ils sortaient de nouveau vers la sixième, puis vers la neuvième heure, et il fit de même. Vers la onzième heure, il sortit encore, on trouva d'autres qui se tenaient encore là, et leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici de la journée ?» Et sans rien faire, ils répondirent, « C'est que personne ne nous a embauchés. Allez-vous aussi dans la vigne ?» leur dit-il. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire. » En allant des derniers aux premiers, ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. » Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois venu? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Prions pour le Saint-Esprit juste. Prions pour la parole d'aujourd'hui entre dans nos âmes. Et alors, prions pour nos âmes et prions pour l'évêque qui va prêcher la parole de Dieu.
하나님 우리 아버지 감사합니다. 오늘도 이렇게 우리 영혼이 하나님께 나와서 하나님의 말씀을 듣습니다. 우리 성도들의 영감이 되어서 그 말씀 앞에 온전히 순종할 수 있는 우리 모두가 될 수 있도록 역사해 주시옵소서. 더럽게
하나님 아버지 거룩한 성의를 하나님께서 우리를 받으시고
허수와 누 큰 은혜와 Donne ta grande grâce et l'inspiration nécessaire. Donne la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole à ton serviteur. Je prie au nom de Jésus. La justice de Dieu, l'équité de Dieu. Lisons le résumé du serment d'aujourd'hui. Tu es le maître pour dominer sa maison et le travail. Donc il y a beaucoup de travail et beaucoup d'ouvriers dans une grande maison. C'est pourquoi il est juste de donner un salaire adéquat aux ouvriers. Mais ce que Dieu nous donne, c'est sa grâce. La grâce est gratuite et ouverte à tous. Il y a une différence de traitement entre ceux qui ont beaucoup travaillé et ceux qui ne l'ont pas fait. Mais concernant la grâce du salut, il n'y a pas de différence. Mais concernant la récompense, il y aura une grande différence. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. La grâce, nous pouvons la recevoir. Concernant la grâce, nous la recevons sur cette terre. Mais concernant la récompense, nous la recevons dans le royaume des cieux. Les derniers ou les premiers recevront la même grâce de Dieu, mais il y aura une différence de traitement. Ceux qui ont travaillé toute leur vie et ceux qui ont épargné leur vie jouissons tous ensemble du mérite du sang précieux, mais il y aura une différence concernant différence de traitement concernant la foi de martyr. Recevons la grâce de Dieu. Dieu va nous rendre selon nos œuvres. Recevez la grâce sur cette terre et obtenons la couronne dans les cieux. Chantons le cantique 515.
«
Lorsque nous appelons notre Seigneur Dieu le Père, il ne faut pas que nous soyons dans l'ignorance. Il est notre maître. Il est notre maître. Il est dit dans les Psaumes 103, toutes choses ont été créées par lui, et alors nous lui appartenons. C'est lui qui est notre berger, nous sommes ses brebis, et donc nous lui appartenons, nous appartenons donc au maître. Seigneur Jésus, cela signifie qu'il est notre maître, moi je t'appartiens. Moi, je t'appartiens. C'est ainsi que nous devons lui obéir et nous devons nous soumettre à lui avec humilité. Qu'est-ce que là, l'obéissance? L'obéissance, c'est nous obéissons lorsque nous sommes d'accord avec lui, mais en concernant la soumission, il n'y a pas de compréhension mutuelle. Et en fait, nous suivons tout simplement les ordres de notre maître. C'est ce qu'on appelle la soumission. Notre Dieu est le maître. Concernant un objet, le maître de cet objet peut utiliser à sa guise. En 1980, lorsque j'étais au Japon, il y a eu un diacre japonais. Lui, il s'est agenouillé devant moi. Ensuite, il m'a dit, il n'y a qu'un seul maître. Moi, je peux oublier ces mots, ces propos. J'étais très choqué par cette phrase. Il n'y a qu'un seul maître. Lorsqu'il l'a dit, alors moi, je me disais, est-ce que je me suis soumis à mon maître? Parce que j'ai un seul maître, c'est pourquoi je lui appartiens. Mais est-ce que je me suis soumis à lui totalement? C'est la question que je me suis posée. Donc, il n'y a qu'un seul maître. Cela signifie que je peux dédier ma vie à mon maître. Utilise-moi donc à ta guise. C'est ce qu'on doit dire à notre maître. Voilà, donc Dieu est notre maître, alors nous lui appartenons. Donc il faut que nous puissions faire une obéissance absolue, une soumission absolue à notre maître. C'est le serment qu'on doit faire. C'est ainsi qu'on doit se dédier totalement à notre Dieu le Père, qui est notre maître. Concernant la vie de la foi, qu'est-ce que c'est? Alors nous sommes dans un grand dilemme. Parce qu'il n'y a pas d'obéissance absolue, parce qu'on ne reconnaît pas qu'il est notre maître. Si Dieu est, devient notre maître, on peut lui obéir à 100%, n'est-ce pas? Et on doit lui plaire à 100%. Et cela signifie qu'on doit abandonner notre propre volonté. Il faut que nous confions notre volonté à lui, à notre nommé, à Dieu le Père, qui est notre maître. Jésus a dit aussi que ta volonté se fasse, non pas la mienne, parce que je t'appartiens à 100%. Conduis-moi selon ta volonté pour que celle-ci se réalise totalement. C'est ainsi qu'on doit se jeter totalement sur notre maître. Qu'est-ce que l'humilité? Il n'y a rien qui m'appartient. Si quelque chose qui m'appartient, c'est parce qu'on n'est pas humble. On est arrogant parce qu'on a beaucoup de choses qui m'appartiennent, qui nous appartiennent. Mais si on a seulement un seul maître, on peut être humble. Parce qu'à ce moment-là, on peut abandonner toute notre volonté, toutes nos pensées pour nous soumettre à notre maître. Comment Dieu a sélectionné ces hommes lorsqu'il a choisi David? Il a dit, il m'a plu. C'est pourquoi il l'a établi comme le berger d'Israël. Dans Marc chapitre 3, Jésus est monté sur une montagne. Il y a eu une grande foule qui venait à lui, mais il a appelé ce qu'il voulait. Il n'a pas appelé ce qui. Voulait, mais il a appelé ce qu'il voulait en fait pour leur travailler, pour leur faire son travail. Par exemple, l'évangélisation, l'expulsion des démons, etc., etc. C'est ainsi que on doit plaire à notre maître. Dieu a dit concernant son fils, c'est mon fils bien-aimé qui fait ma joie. C'est ainsi que Jésus a plu à son père. C'est la raison pour laquelle on peut même abandonner notre vie si Dieu le veut. On peut faire n'importe quelle chose. C'est ainsi qu'on peut se soumettre à notre Dieu le Père. C'est ce que Jésus a fait. Il était un serviteur saint qui a fait la volonté de Dieu le Père à 100%. Il était un serviteur de Dieu le Père. Jésus a dit, moi je t'appartiens, moi je suis ton ouvrier, je suis ton serviteur. C'est ce que Jésus a dit au Père, à Dieu le Père. C'est la raison pour laquelle l'œuvre du salut qui se réalise sur cette terre a été accomplie par Jésus-Christ. Il faut que nous devenions la possession de Dieu. Il faut que notre famille devienne la possession de Dieu le Père. Lorsque nous donnons les offrandes à Dieu, il ne faut pas que nous donnions ce qui nous appartient à Dieu. Il faut que nous donnions à Dieu ce qui est déjà devenu ses possessions. Il est dit dans Agée chapitre 8, « L'or, l'argent, tout ce qu'on importe appartient à Dieu le Père déjà. » Lorsque l'on a travaillé, par exemple, on peut obtenir un salaire. Mais c'est Dieu qui nous a fait travailler. Cela signifie que c'est Dieu qui nous a donné l'énergie nécessaire, qui nous a permis de travailler, n'est-ce pas? C'est Dieu qui nous a permis d'obtenir ce revenu. C'est la raison pour laquelle nous sommes sa possession. De ce point de vue, l'or et l'argent appartiennent à Dieu le Père. À Dieu le Père. Dieu a dit, toi, Israël a été complètement détruit. Mais toi, t'es précipité pour bâtir ta propre maison, même si la maison de Dieu a été totalement détruite. Même si tu gagnes de l'argent, tu vas tout perdre. Parce que tu as pensé d'abord à ta propre maison plutôt que la maison de Dieu, même si ton revenu est considérable. Et faire voler ce revenu parce que tout ceci m'appartient. Moi, tu n'as pas utilisé ton argent pour mon travail, pour ma maison, parce que le temple de Jérusalem est totalement détruit. Mais les Israéliens, eux, en fait, ils ont cherché d'abord à bâtir leur propre maison. Mais il faut d'abord chercher son royaume et sa justice. Mais ils ont donné la priorité à leurs propres affaires. C'est pourquoi Dieu leur posa une question. Qui est votre maître? Qui est votre roi? Où se trouve votre roi, votre maître? C'est la question que Dieu s'est posée. A posé à eux, même le diable connaît qui est son maître. Pardon, même les animaux connaissent leur maître. Est-ce que vous connaissez votre maître? Vous savez qui est votre maître? C'est ainsi qu'on méprise Dieu. On méprise notre Père, notre maître. Donc, jusqu'à quand nous allons être bafoués par lui? Il est notre maître. Donc, il faut que nous devenions sa possession. Non seulement notre corps, mais aussi notre âme deviennent ses possessions. Il est dit dans le texte ce que nous devons comprendre, qu'est-ce que c'est le royaume des cieux est semblable à un maître qui a envoyé ses ouvriers pour faire travailler. Il y a d'abord une révélation naturelle et une révélation spéciale concernant la révélation naturelle. Et alors, il y a donc la nature qui progresse en fonction de la saison. Donc, au printemps, on pousse, les semences poussent. Et ensuite, elles croissent, elles sont récoltées, elles donnent des fruits en automne. Et voilà, donc c'est ce qu'on appelle la révélation naturelle. Baal était un dieu de la résurrection, parce que c'était un dieu de fécondation. Donc, même les païens connaissent, comprennent le fonctionnement de la nature parce qu'il y a une révélation naturelle. Donc, via la nature, on peut comprendre ce que c'est le travail de Dieu le Père. Donc, les saisons changent. Si le temps vient, et à ce moment-là, il y a donc le fonctionnement de la nature. Donc, voilà, il y a la période de la croissance et la période de la récolte. Et ensuite, il y aura un moment du jugement. Et voilà, donc en automne, on sème. Au printemps, on sème. Et en automne, on récolte. C'est la révélation naturelle. Mais concernant la révélation donc, générale, il y a la conscience et il y a la loi. Donc, qu'est-ce que la conscience générale, même si on ne croit pas en Jésus, la conscience est devenue une loi. Et dans les religions, donc voilà, il y a beaucoup de... préceptes et elle a beaucoup de leçons dans les religions. C'est ce qu'on appelle la révélation générale, mais la révélation spéciale, c'est Jésus. Concernant la révélation générale, donc voilà, on est tous conscients de l'existence de la conscience. Mais concernant la conscience spéciale, c'est Jésus-Christ qui est venu dans le monde, il est mort, il a été ressuscité, il est monté dans les cieux, à travers la nature, à travers la conscience. Et on peut donc avoir un certain jugement, et on peut vivre, on peut bouger, fonctionner. Mais concernant la révélation spéciale, c'est Jésus qui est venu sur cette terre. C'est ce qu'on appelle la révélation spéciale et c'est celle qu'on doit posséder. C'est Jésus qu'on doit donc avoir, posséder. Donc, à travers la révélation naturelle, on comprend des choses. Donc, à travers la nature naturelle, et des choses se révèlent, mais concernant la révélation générale, on peut aussi comprendre le fonctionnement des choses. Mais concernant la spéciale, tout sera clair, tout sera clarifié totalement. Il est dit dans la Bible, on parle de la semence d'Abraham. Jésus est une semence. Cette semence doit être semée. Donc, c'est ainsi que Dieu a semé une graine qui est Jésus-Christ. C'est l'évangile du royaume des cieux. Cette graine a été semée et cette graine pousse. Ensuite, elle donnera des fruits et ces fruits seront récoltés D'abord, c'est donc il y a eu une révélation naturelle. Mais ce qui a été révélé par la révélation naturelle va s'accomplir totalement avec le temps. Il y a donc la culture dans ce monde, il y a beaucoup de coutumes dans ce monde. Mais tout ceci constitue des révélations et qui nous dévoilent des ombres des choses du monde. Donc il y a donc l'accomplissement des volontés qui sont contenues dans des choses, dans les choses du monde. Il y en a même pour la Bible, pour les Écritures et pour le royaume des cieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc devant cette vérité? Le royaume des cieux est semblable à un maître qui s'est levé tôt pour mobiliser, pour utiliser des ouvriers, pour comment. Il va employer des ouvriers. Donc un maître a choisi un homme pour faire de lui son ouvrier. Alors il l'a fait travailler dans son champ et il a aussi employé d'autres personnes. Et ils les ont mis dans leur lieu de travail, dans son lieu de travail. Donc, il y a quelqu'un qui a travaillé seulement pendant une demi-journée et un autre a travaillé pendant toute la journée. Et donc, à la fin de la journée, le maître récompense ses ouvriers. Par exemple, il employait une personne en lui promettant de lui donner comme salaire 100 000 won. Donc, 100 000 won a été versé à cette personne. Et il y a une autre qui a travaillé pendant une demi-journée, mais qui a aussi reçu un salaire évalué à 100 000 won. Donc, la première personne a été très étonnée par cela parce que ce n'était pas équitable à ses yeux. Cette personne a travaillé pendant toute la journée, mais elle a reçu 100 000 won. Mais une autre qui a travaillé seulement pendant une demi-journée a reçu aussi le même salaire. Alors le maître a dit à cette première personne, « Moi, je t'ai promis de te donner un salaire de 100 000 won pour une journée entière. » Et puis une autre personne qui a travaillé pendant une demi-journée, je lui ai donné aussi un salaire de 100 000 won parce que c'est ce que j'ai voulu. Alors moi je suis bon, mais tu m'as considéré comme mauvais parce que moi je fais comme je veux et j'utilise ce que j'ai selon ma propre volonté. C'est pourquoi la Bible dit les premiers pourront être les derniers et les derniers pourront être les premiers. Cela signifie que les premiers pourront être traités moins favorablement que les derniers. C'est un avertissement écrit dans la Bible. C'est ce que nous devons comprendre. Bien, parce que c'est le maître qui décide. Moi, je connais un jeune homme qui coupe les cheveux. Alors parfois, je lui paie lorsqu'il a coupé mes cheveux, mais parfois, je lui donne 50 000 won ou bien 100 000 won même. Pour les payer. Alors, si j'étais le premier client, je lui paie un peu plus. Voilà, donc je lui donne un montant que je veux. C'est ainsi que j'utilise mon argent à ma propre gré. Alors, voilà, Dieu veut accomplir le bien et alors il veut nous accorder son bien même. Mais ce que nous devons bien comprendre, c'est que c'est son attribut. Il est le Dieu de grâce. Il est gracieux. C'est ce que nous chantons et c'est ce que nous confessons, n'est-ce pas? Il est rempli de grâce. Concernant la grâce, qu'est-ce que c'est? La grâce est un cadeau. Concernant le cadeau, il n'y a pas de mérite de notre part. Il lui donne sa grâce, il lui donne sa grâce d'une manière unilatérale parce que c'est un cadeau de sa part. Donc, nous devons mériter de recevoir ce cadeau. Mais, curieusement, il n'y a pas de mérite de notre part. C'est lui qui. Qui crée un mérite nécessaire qui peut nous permettre de recevoir sa grâce. Voilà donc, la grâce est totalement gratuite. Nous avons reçu sa grâce. Concernant la grâce de Dieu, il n'y a pas de différence de traitement en ce qui concerne la grâce. Même les mauvais peuvent recevoir sa grâce. Parce que Jésus-Christ est venu non pas pour appeler les justes, mais pour appeler les pécheurs. C'est la raison pour laquelle même les pécheurs, même les mauvaises personnes peuvent recevoir la grâce de Dieu de manière gratuite. Donc voilà, il nous donne sa grâce d'une manière gratuite. Puisque nous sommes pécheurs, nous n'avons pas de justice de notre part. C'est pourquoi il a tué son propre fils, il a fait mourir son propre fils pour que nous ayons la justice, c'est-à-dire la justice de Dieu. Donc nous avons reçu donc sa grâce dans le cadre de cette justice. Nous avons connu le nom de Jésus, nous avons été baptisés après avoir reçu sa grâce. Et nous avons reçu. Nous avons reçu le Saint-Esprit, donc. Comme cadeau. Lors de l'enfantement, comment ça se passe en fait? Ce sont les parents qui enfantent et ce sont les parents qui élèvent, éduquent leurs enfants. Mais ceux-ci ne connaissent pas très bien la grâce de leurs parents. Sans amour, on ne peut pas élever son bébé. Sans intérêt et sans le sacrifice des parents, on peut pas, donc, l'enfant ne peut pas être, croître normalement. Il est dit donc, dans la Bible, on a été sauvés gratuitement. Mais il y aura son jugement d'équité. Dans cette équité, il n'y a pas. De générosité. Il n'y a pas de faveur. Il n'y aura que l'équité qui va fonctionner dans le jugement de Dieu, lors du jugement de Dieu. C'est sa justice. Concernant donc la justice, l'équité, il n'y aura donc la rétribution équitable de la part du maître. Concernant la grâce, nous recevons sa grâce avec le mérite du Fils de Dieu qui nous a été donné gratuitement. Mais concernant la justice, il n'y a pas de mérite de notre part. Est-ce que nous avons accumulé nos mérites ou pas? Et concernant donc le jugement de Dieu. Et lorsqu'on a été sauvé, on s'en réjouit, mais on sera jugé un jour. Dieu va nous rendre selon nos œuvres. Donc les sauvés seront jugés un jour. Et c'est pas la peine d'être dans une confusion. Et en fait, il y a d'abord le salut que nous pouvons obtenir gratuitement. Ensuite, il y aura le jugement de Dieu, d'équité. Et lors de ce jugement, les blés seront jetés dans le grenier, tandis que les ivraies seront brûlés. Notre Dieu est un Dieu d'équité qui va donc juger avec équité. Nous avons reçu la grâce de Dieu lorsque nous avons été pécheurs. Nous avons reçu sa grâce, nous avons pu connaître donc le nom de Jésus, nous avons pu être baptisés, nous avons reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais concernant la récompense, nous sommes devant le semeur qui veut récolter. Nous sommes donc devant le Dieu d'équité. Si on n'a pas de mérite de notre part, on ne peut pas être concerné par sa récompense. Il est dit dans la Bible, nous bâtissons tous une maison. Est-ce que nous la bâtissons avec de l'or ou bien avec des chaumes ou bien avec l'argent? Si nous utilisons des chaumes pour bâtir une maison, et donc il y aura alors... une épreuve et qui va se passer. Alors la maison bâtie avec des chaumes sera brûlée lors de cette épreuve. Il est dans Hébreux chapitre 10, verset 26. Alors nous avons reçu sa grâce, nous avons reçu donc une connaissance de la vérité. C'est ainsi qu'on a reçu la grâce de Dieu. Mais si on pêche volontairement, qu'est-ce qu'il va se passer? Alors, nous sommes donc toujours les mêmes. Et il n'y a pas de différence et, entre la période où on n'a pas cru en Jésus et la période où et, on a cru en Jésus. À ce moment-là, il y aura un jugement sévère de la part de Dieu. Si nous sommes le peuple de Dieu, nous allons aller au-devant de lui pour être jugés. Il est donc terrible de tomber dans la main de Dieu. Même si on a reçu la grâce de Dieu, il y aura un jugement d'équité. À ce moment-là, il n'y aura pas de regret. Même... parce que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes, n'est-ce pas? Donc il faut que nous recevions absolument la grâce de Dieu pour être sauvés. Et après avoir été sauvés par sa grâce, nous devons être récompensés. Par exemple, nous devons obtenir la couronne. Donc maintenant, nous courons. Hein? Nous devons achever cette course pour obtenir la couronne céleste. Il y a une multitude de personnes qui courent ensemble et il ne faut pas avoir de hippie dans cette course, mais il y a une différence entre les premiers et le dernier, n'est-ce pas? L'écart se creuse. Donc il y a un seul coureur qui peut obtenir le premier prix. Donc nous sommes en train de faire une course. Il faut que nous l'achevions d'une manière parfaite. Alors, quelle est notre destination? Réfléchissez bien. Hein? Vous connaissez très bien, il y a eu une ville, Pompéi, qui a péri.
Hein?
Alors, dans cette ville, il y a eu un grand développement technologique. Mais un jour, les souris, par exemple, ont commencé à partir de cette ville. Et un grand désastre viendra. Il y a eu quelqu'un qui a prophétisé. Mais alors, tout le monde connaît la perdition des deux villes, de Sodome et de Gomorre. Mais alors personne n'a cru à cette prophétie qui concernait la ville de Pompéi. Mais un grand désastre est survenu dans cette ville. Et cette ville a été complètement anéantie. Et cette ville a été totalement anéantie par ce désastre. Donc, il y a eu beaucoup d'incendies, beaucoup de cendres, donc. Vous connaissez très bien cette histoire, n'est-ce pas? Alors, ce genre de désastre peuvent survenir à tout moment, à notre insu, n'est-ce pas? Le monde bouge, fonctionne. Les étoiles tournent. C'est la nature. En fait, par le passé, encore, il y a eu trois royaumes, mais le royaume de Silla, c'est le plus développé. Et puis, Kaya aussi, c'était un royaume bien développé. Alors, une femme qui avait le nom He est venue à Kaya. Il y a eu en fait le retour de la civilisation, de la culture. Donc, il y a aussi. Une rotation de la culture, de la civilisation d'un pays. Par exemple, une culture vient en Chine, en Inde, aux États-Unis, et cette culture vient jusqu'en Corée. Alors, par ce, un pays peut surveiller. De la même manière, un désastre peut bouger aussi. Hein. Par exemple, le Japon était un grand pays. Et lorsque le Japon a déclenché une guerre, le Japon a eu six navires, 13 000 avions, et il a eu aussi six grands navires militaires. C'était un grand pays, hein, militaire. Mais en fait, la Corée était totalement pauvre et on n'a pas d'armes. On n'a aucune arme, en fait, hein, face aux Japonais, hein, qui ont été bien armés. Alors là, le Japon a été anéanti par une bombe atomique, n'est-ce pas? Donc c'est ainsi que la culture, la civilisation tourne de la même manière, le désastre tourne aussi. Hein. Donc on ne sait pas quand nous allons être anéantis, détruits par un désastre qui tourne dans le monde entier. Donc voilà, on ne sait pas quand un désastre va survenir. Vous savez très bien ce que fait la Corée du Nord. La Corée du Nord a des armes nucléaires déjà, mais les États-Unis sont face à eux, et les Nord-Coréens sont prêts à faire une guerre avec les Américains. Les Américains n'ont jamais perdu. Hein. Ils n'ont jamais perdu lors de la guerre. Par exemple, lors de la guerre avec le Vietnam, ils n'ont pas perdu, hein, les Américains n'ont pas perdu cette guerre. Ils se sont tout simplement retirés. Et donc, ils ont arrêté de faire la guerre avec le Vietnam. Donc, ce n'était pas une perte, ce n'était pas donc une défaite pour les Américains. Alors, les Nord-Coréens veulent saisir des opportunités favorables. Ils guettent maintenant. Les Américains envoient leurs armes stratégiques nucléaires et pour donc des avertissements aux Nord-Coréens. Alors nous sommes maintenant en paix, mais ce n'est pas l'affaire d'autrui. Hein. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Lorsqu'on parle de la paix, c'est le moment de la survenue d'un grand désastre. Lorsqu'on parle beaucoup des rumeurs des désastres et il n'y a pas de déclenchement de désastre, n'est-ce pas? Alors même si les Nord-Coréens cherchent à développer des armes nucléaires en faisant des essais nucléaires, alors même si les Américains envoient des armes stratégiques nucléaires et sur la péninsule coréenne, les Sud-Coréens sont dans une paix totale. Mais c'est ça le moment d'un grand danger. Voilà, donc il faut que nous soyons vraiment éveillés. Lorsqu'une seule arme nucléaire est utilisée, qu'est-ce qu'il va se passer? Si l'électricité ne passe pas, et vraiment, il n'y a pas de confort, n'est-ce pas? C'est un moment d'une grande confusion. Si il y a une coupure d'électricité, par exemple. Voilà, donc moi, je suis vraiment inquiet de ce qui va se passer dans l'avenir. Alors moi, en fait, je suis inquiet de la possibilité du déclenchement d'une guerre. Mais les jeunes gens, eux, en fait, ils ne sont pas préoccupés par cette question. Mais si tu utilises ces anges, voilà, c'est ça le moment du déclenchement d'une guerre. Jusqu'à ce que les ouvriers de Dieu soient scellés. À un moment donné, est-ce qu'on pourra se repentir? Si un désastre survient brusquement, et qu'est-ce qu'il va se passer? Comment on doit réagir? Alors, on a tous reçu la grâce de Dieu, mais il y aura le jugement d'équité de la part de Dieu, mais on n'est pas prêt à être présent lors à ce jugement. Donc, lorsque le jour approche, il ne faut jamais oublier la réunion. Il faut qu'on cherche à se réunir. Et alors, plus le moment approche, plus on doit chercher à se réunir. Chacun de nous, plus le moment approche, plus l'individualisme se développe. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a ordonné de nous réunir encore plus et de ne pas nous attacher à l'individualisme. Parce que le moment est proche. Parce qu'on a été éclairé, on a participé à des dons du Saint-Esprit, on a reçu la connaissance de la vérité, mais si on pêche volontairement, il n'y a pas de possibilité d'être racheté de nouveau. On a tous reçu la grâce de Dieu, on a connu le nom de Jésus, on a été baptisé, on a reçu le Saint-Esprit, on a reçu le baptême et le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors maintenant, comment on doit réagir devant le juge qui va nous juger avec équité? Notre Dieu sera très froid lorsqu'il procède à un jugement. Il va nous rendre selon nos œuvres. La grâce est la grâce. Donc, elle est gratuite. Mais concernant les récompenses, il y aura donc le traitement de la part de Dieu équitable. Sur cette terre, nous recevons sa grâce, mais concernant les récompenses, nous allons la recevoir dans le royaume des cieux. Donc voilà, nous allons tous mourir. N'est-ce pas? Mais si nous périssons en devenant des démons, comment qu'il va se passer? Donc il faut que nous soyons toujours prêts à être jugés par le Dieu d'équité. Lorsque nous rendons le culte, il faut que nous aimions nos propres âmes. Donc utilisez toute votre vie, toute votre force, de votre cœur, parce que nos âmes vont se tenir devant le juge. Donc il faut que nous soyons tout prêts, nous soyons tout préparés. Hein. Donc, il faut que nous aimions Dieu de tout notre cœur, de nos forces. Donc, voilà, l'âme qui est en nous n'est pas autrui, mais cette âme est à nous-mêmes. Il y a eu une personne qui a vendu tous ses biens pour acheter un champ où se trouvaient des trésors. C'est ainsi que Dieu nous a rachetés, n'est-ce pas? Est-ce que nous dédions tout ce que nous avons pour acheter nos propres âmes? C'est ce que nous devons faire. Il faut acheter la récompense que nous allons obtenir dans le royaume des cieux. Il ne faut pas que nous soyons sauvés dans la honte, mais dans la gloire. Levez-vous. Levez-vous tous, fermez vos yeux, aimez vos âmes. Vous avez reçu la grâce de Dieu, vous avez été baptisé, vous avez reçu le Saint-Esprit, mais vous allez tous vous tenir devant le juge. Pour cela, il faut que nous ayons le mérite de notre part. Nous avons reçu sa grâce par le mérite de Jésus-Christ. Et donc, il faut que nous soyons récompensés. Pour cela, il faut que nous ayons des mérites d'autre part. Il ne suffit pas de participer en culte. Il faut qu'on travaille pendant toute la journée à l'église. Et même si on n'a rien à faire, il faut prier, il faut protéger l'église, il faut s'entraider les uns les autres. Tout ceci doit se faire pour nos âmes. Donc, il faut que nous fassions tout notre maximum lorsque nous donnons les offrandes à Dieu, lorsque nous rendons le culte, lorsque nous passons le jour du Seigneur. Il faut que nous soyons dans le maximum. Il faut que nous fassions des efforts considérables pour plaire à Dieu, pour plaire à notre Maître, aimons nos âmes par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit agisse et aimons nos propres âmes par le Saint-Esprit. Prions tous ensemble.